Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
Félix, tu veux revenir sur le procès Trump à New York? On a entendu le témoignage de M. Pecker du National Enquirer. Pecker, qui veut dire en argot américain, bisoune un peu. Te souviens-tu, il y a un gars qui s'était présenté à la mairie de New York qui s'appelait Wiener.
Alors, oui, Anthony Weiner.
Anthony Weiner. Et qui avait justement montré son Weiner sur Internet et envoyé des photos de son Weiner. Alors là, c'est M. Pecker.
Oui. Puis je te parle de ça. Ça a été couvert en long et en large, mais je vais te parler de ça sous un angle assez particulier parce que je ne cache pas ma fascination, pour les mauvaises raisons, cela dit, là, pour des tabloïdes comme le National Enquirer ou le News of the World, le défunt News of the World, parce que c'est important de séparer le mythe de la réalité là-dedans, puis aussi de dire à notre public, à ceux qui nous écoutent, Richard, si vous pensez que les gens qui travaillent au National Enquirer sont des journalistes qui suivent un code de déontologie, j'aurais quelques surprises dans votre chronique aujourd'hui pour vous affirmer le contraire. D'abord, juste en revue, là, passons le témoignage de David Pecker en revue, qui était le premier témoin au procès de Trump hier, qui était donc l'ancien propriétaire du National Enquirer. Tu sais, là, pour ceux qui ne savent pas, le National Enquirer, là, aux caisses des supermarchés, là, quand tu te présentes là pour payer, là, il y a souvent là un étal justement à tabloïdes comme ceux-là qui rivalisent d'anecdotes salaces et non vérifiées pour plusieurs là sur des vedettes ou sur enfin le monde politique, les politiques de notre temps, puis qui essaient de nous vendre un paquet de salades. Et là, c'est intéressant parce que quand David Pecker donc témoigne, on apprend un peu comment justement il travaille. Alors, c'est un témoin de l'accusation maintenant, Pecker. On le décrit comme finalement un vieux playboy, tu sais, aux cheveux gominés là. Et quand tu regardes à l'heure, c'est franchement, tu vois, ça va avec l'époque. Alors, ce que David Pecker faisait, c'est qu'il était ami de Trump d'ailleurs. Et il jouait ce qu'on appelle un match de catch and kill. C'est que lui, il achetait des nouvelles. Déjà là, il y a un petit problème d'éthique. Quand t'achètes une nouvelle, et pour ensuite la tuer. C'est ça le catch and kill. C'est-à-dire, écoute, quelqu'un qui arrive, qui a une confidence à faire, qui pourrait éclabousser quelqu'un comme Donald Trump, ben regarde, je te donne 150 000, on va s'occuper de tout ça, puis finalement, il n'y a rien qui paraît. Évidemment,
Il payait le témoin pour que le témoin se la ferme.
Ben oui. Ben en fait, c'est plus fin que ça, mais pas beaucoup plus fin que ça en termes de finesse. C'est que, exemple, moi j'ai une anecdote là croustillante qui pourrait faire saliver là le public sur la vie personnelle de Richard Martineau. Alors, oui. Je m'en vais voir un journal, puis là, ce journal-là, News of the World, me dit, écoute, hey, ça m'intéresse ton affaire, je vais te donner 150 000 pour que tu me parles. Alors là, le propriétaire du News of the World se retourne, appelle Richard Martineau, en disant, hey Richard, t'en fais pas. J'ai payé celle qui voulait te salir 150 000 pour avoir sa nouvelle, mais je la publierai pas. C'est ça, du catch and kill. Hein? Alors, c'est ça que Pecker a fait avec Donald Trump. Et puis, écoute, là, donc, il témoigne hier et il dit, donc, en 2015, après l'annonce de la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche, on se voyait assez fréquemment, peut-être une fois par mois. Donald Trump et Michael Cohen ont demandé à Pecker ce que ses magazines à lui pouvaient faire pour aider la campagne présidentielle de Trump. Il a dit, Pecker, ben, je vais publier des articles positifs sur Trump et des articles négatifs sur ses adversaires. Écoute, il enfreint évidemment toutes les règles éthiques. Alors, Maintenant que
c'est ce genre de tabloïd-là, en Angleterre, là, c'est ce qu'on faisait, c'est on faisait de l'écoute électronique, on écoutait, on plantait des micros dans les téléphones, on écoutait les conversations téléphoniques de gens connus, des vedettes et tout ça. Et là, on faisait des textes à partir de ça, c'était complètement débile, aucune règle d'éthique.
Oui, le News of the World, puisque t'en parles, j'y arrivais, puis je reviendrai au National Enquirer ensuite, le tabloïd qui est en question, qui est cité dans le procès de Trump. Le News of the World, qui était propriétaire de Rupert Murdoch à l'époque, ce tabloïd-là a enfreint des règles de droit très claires, puis a bénéficié de l'écoute électronique et a même incité des gens à faire de l'écoute électronique sur des personnalités sur lesquelles le tabloïd voulait chroniquer ou publier des nouvelles pour obtenir des secrets. Évidemment que ça se fait pas. C'est sûr que ça se fait pas. Voyons, le National Enquirer, qu'est-ce qu'il faisait, entre autres, et ça, c'est assez... C'est effarant. Dans sa politique de catch and kill, là, David Pecker, il dit, ben regarde, il dit, nous, ce qu'on faisait, c'est du checkbook journalism. Alors, il dit, we paid for stories, mais pas plus que 10 000. Donc, leur politique, chez les journalistes, c'est écoute, quand t'as une nouvelle, puis c'est une bonne nouvelle, tu peux pas donner plus que 10 000 à la personne pour l'acheter. Et il y a plusieurs de ces nouvelles-là qui se sont retrouvées dans le News Enquirer, qui étaient des nouvelles achetées, Richard.
Mais Félix, là, toi, dans les reportages que tu fais, est-ce que tu paies les témoins? Là? Quelqu'un qui va témoigner dans ton reportage, est-ce que tu paies tes témoins?
Ben, on se le fait écoute, puis on se dans le monde que moi je couvre beaucoup de crimes organisés, tout ça, on nous le demande souvent.
Ah, écoute, oui.
Est-ce que ça paye, ça, de témoigner? Ben, on dit toujours, bien sûr, une règle d'or du journalisme, c'est non. Puis c'est non, c'est un non catégorique. Parce que si tu devais payer quelqu'un pour un témoignage, ça t'assure d'une chose. Il va probablement te dire ce que tu veux entendre parce qu'il est rétribué pour le faire. Évidemment. Ben ça, au National Enquirer, c'était monnaie courante. Puis il existe deux documentaires que je te suggère de voir. Ils sont, écoute, savoureux, dont un qui a été diffusé là dans la série des CNN Presents, là, un super documentaire qui s'appelle The True Story of the National Enquirer. Les journalistes qui travaillaient là à l'époque nous parlent et écoute, ils allaient couvrir des affectations mondaines en jet privé. Et on leur demandait, la rédaction leur demandait de retirer des faits compromettants pour les amis de la rédaction, puis d'en ajouter un petit peu des compromettants sur les ennemis de la rédaction. Franchement, c'est un monde en soi, c'est une business en soi, et ça a longtemps été le tabloïd le plus lu aux États-Unis, le fameux National Enquirer.
Et Félix, je suis content que tu me parles de ça, le catch and kill, parce que je me demandais c'était quoi cette expression-là. Ronan Farrow, le journaliste Ronan Farrow, qui est le fils de la comédienne Mia Farrow, c'est lui qui a sorti l'histoire d'Harvey Weinstein, de ceux, avec deux autres journalistes femmes, et son livre sur l'affaire Weinstein, ça s'intitulait Catch and Kill. Et je me demandais pourquoi il avait utilisé ce titre-là, Catch and Kill. Donc, j'imagine c'est parce qu'il y avait des journaux, entre autres, qui étaient au courant de ce que Harvey Weinstein faisait avec ses comédiennes. Ils les agressaient sexuellement. Puis, comme tu dis, ils ont caché l'histoire. Ils l'ont enterré.
Ben oui, exactement. Puis, il y a, tu sais, tout le vedettariat américain, pas tout le vedettariat, mais des membres, tu sais, éminents du vedettariat américain ont poursuivi le National Enquirer en raison, justement, de leur manque d'éthique, parce que leur article n'était ni plus ni moins que diffamatoire, parce qu'ils étaient mal sourcés, ils étaient mal vérifiés. Tu vois, Gary Condit a réglé hors cours avec eux. Pas juste Gary Condit, aussi Tucker Chapman, t'as aussi... Elizabeth Smart, il y a plein de gens qui ont poursuivi. C'est bien sûr parce que la base de leur travail est viciée. Tu comprends? La base de leur travail est viciée. Puis le documentaire dont je vous ai parlé, allez voir ça. Franchement, ça vous explique tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu es journaliste. C'est vraiment un petit traité des choses à éviter.
Et Félix, c'était quoi le journal? C'était pas National Enquirer, mais c'est quoi le journal qui allait encore plus loin et puis qui inventait des histoires farfelues comme quoi Bill Clinton avait reçu un extraterrestre à la Maison-Blanche
ou alors il avait retrouvé
le capitaine du Titanic qui vivait depuis 50 ans sur une banquise puis qui mangeait des poissons puis tu sais, des trucs incroyables.
Oui, des trucs. Et puis ça aussi, c'était dans les présentoirs des épiceries. Quand tu les voyais au marché d'alimentation, puis tu disais...
J'adorais ce journal-là parce que ça me faisait rire. Là. Tu t'imaginais les gars et les filles qui inventaient ces histoires-là qui devaient à hurler de rire dans leur salle de rédaction. Là. Mais tu sais, il y en avait des drôles en maudit. Là. Comme un petit enfant qui était comme une chauve-souris géante et on l'appelait le Bat Baby. Des trucs complètement hallucinants.
avec ces mots qu'on pourrait qualifier maintenant de mots-clics, là, ces titres oui. là, super accrocheurs, oui. Bat Baby avec... un gars avec une orteille dans le front.
Mon record, c'est comme quand il dit on a retrouvé le capitaine du Titanic sur une banquise.
Génial. Bon, c'est burlesque, c'est bon.
Oui, alors, sur un mode plus sérieux maintenant, le meurtre de Véronique Manceau. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il y a les jurés qui sont en train là, de discuter. Mais ils ont pas une information qui est importante, hein, c'est ça?
Ben c'est ça, puis c'est parce qu'il y a un cadre qui est fixé, évidemment, dans un procès devant un jury. Il y a des admissions qui sont faites de part et d'autre, puis on admet que la preuve qui sera présentée, c'est celle-là, puis il y a des choses qu'on ne leur dira pas au jury, pour plein de raisons, et quand le jury est séquestré, voilà qu'on peut en parler, parce que le jury est supposé ne pas y avoir accès, puis etc.
Alors, ils sont en train de délibérer, mais ils ne sont pas en possession d'une information qui est quand même importante.
Capital. Et donc, c'est le procès de Mme Manceau. Elle est accusée d'avoir torturé et tué un ami qui était à une fête chez elle à la Chine. Et là, ce que Michael Nguyen nous apprend dans le Journal de Montréal, ce que le jury ne sait pas, c'est que le tribunal a déclaré inadmissible la preuve de la découverte du corps de la victime, incluant les expertises en pathologie, en chimie, en toxicologie puis en biologie sur la victime. Ça a été dit juste avant le procès, donc on pouvait pas savoir que ça existait parce que on a soulevé de graves interrogations sur la manière dont cette preuve-là a été recueillie. On affirme qu'elle a été recueillie illégalement, donc si c'est recueilli illégalement, ça peut pas être tenu, ça peut pas être à charge contre toi. Alors le jury travaille en mettant de côté cette preuve-là. Alors, c'est assez intéressant, ce procès-là, parce que, ben d'abord, c'est un peu scabreux, mais passons les détails, parce que la preuve de la couronne dit qu'elle avait consommé du crack, elle pensait que ce gars-là était devenu un espion, genre de délire, puis finalement, elle l'a tué. Mais, écoute, il y a des grands pans de l'interrogatoire aussi de l'accusé par les enquêteurs qui ont été rejetés. Mais même à sans ces éléments-là, importants pour la couronne n'a pas lâché de morceau, puis elle a décidé de continuer son procès quand même. Donc là, ce qu'on va avoir bientôt, c'est un verdict de culpabilité ou non, avec un représentant là, du DPCP qui va avoir décidé de tenir tête à cette preuve-là qui n'a pas été bien recueillie, puis a essayé d'obtenir une condamnation quand même. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y en retourner.
Ça me passionne, moi, l'histoire de la séquestration des jurés. Écoute, j'avais lu il y a plusieurs années un gars qui était juré sur le procès de Charles Manson, hein, qui avait été accusé d'avoir commandé les meurtres de plusieurs personnes, dont la femme de Roman Polanski, Sharon Tate. Alors, ce gars-là a été séquestré dans une chambre d'hôtel, pas d'accès à la télévision, pas d'accès aux journaux. Quand il y avait les journaux, on avait découpé dans le journal tout ce qui se rapportait au procès. Oh. Il était séquestré pendant presque un an. Écoute, c'est une histoire de fou, là. J'imagine qu'on n'a plus le droit de séquestrer les jurés aussi longtemps que ça, mais quand même, c'est assez spécial.
Ben, on les séquestre le temps qu'il faut, là. C'est-à-dire, le temps qu'ils arrivent à un verdict. Souvent, par exemple, ce qu'on va arriver avec ce qu'on appelle bien avant un an de séquestration, un hung jury. Donc, un jury qui est pas capable de rendre verdict, qui incidemment va faire en sorte de déclencher la tenue d'un second procès parce que le jury a pas été capable de s'entendre. Mais ce qu'on sait pas aussi, c'est que le jury, quand il est séquestré, là, il arrive extrêmement souvent. C'est la norme, d'ailleurs, que le jury revienne en salle de cour pour poser des questions au juge.
Ah,
parce que Le juge va toujours dire au jury, si ma mémoire est fidèle, puis un collègue comme Michael Nguyen pourra me corriger là-dessus, mais je pense que je l'ai entendu à plusieurs reprises, vous êtes les maîtres des faits et je suis le maître du droit. Donc, le juge balise la piste de réflexion sur les faits que le jury va avoir à exercer. Mais sur les faits, le jury est entièrement libre de croire ou non et tout ça. Mais quand ils reviennent devant le juge sans dire « Hey, on aimerait réécouter tel témoignage. » Des fois, là, c'est réécouter 3 jours de témoignage. Puis moi, ce qui m'a été donné de voir, c'est que quand tu investis, puis je suis persuadé que moi, je serais comme ça aussi. Si j'étais appelé à être jury, je me sentirais investi de la mission de rendre justice, tu vois. Puis j'hésiterais pas probablement. Tu sais, c'est quand même aussi, tu sais, aussi scabreux puisse être le crime, aussi antipathique puisse être l'accusé. Tu veux quand même faire ce fameux devoir de citoyen du mieux possible. Puis il me semble que j'hésiterais pas, moi, à réécouter des témoignages, tout ça, parce que c'est quand même la vie de quelqu'un que t'entre les mains, tu sais. Moi aussi, ça me fascine, le fonctionnement d'un jury.
Tout à fait. D'ailleurs, il faut regarder, revoir encore ce classique 12 Angry Men, 12 hommes en colère, qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Félix. Toujours intéressant. Le plaisir demain. Salut.